La barge russe. Quotidiennement. Avec Johnny Chief Beck. Sur Jet FM. Barge russe 4-5-5, réalité cyber. L'anticipation est généralement à propos du devenir social humain. Certaines concernent le fardeau écologique. Il peut être question de religion, qui peut se trouver un domaine à explorer, puis analyser, puis exploiter. Tout comme la politique peut se trouver liée à des cultes du monopole pour des contrôles socio-humains conditionnés. Très généralement, une résistance se lève dans les anticipations. Dans les années 60-70, la résistance triomphait. Puis, à l'arrivée du cyber-libéralisme, cyberpunk et tout ça dans les années 80, la résistance a été confrontée à une réalité plus probable, plus profonde. La vie, plutôt comme une inéluctable défaite, que comme une poésie. La société occidentale a commencé à prendre conscience, sur une plus vaste échelle, du sentiment de son enfermement quasi-carcéral, du moins d'esclave, qui doit payer ses maîtres en plus de les faire vivre. Les illusions spectrales de la réalité totale et parfaite, du modernisme notamment, des patrons, en fait, de ceux que nous, les esclaves, on fait vivre, de la réalité totale et parfaite des échanges contournent, efface les besoins nécessaires à l'existence, à nos existences. À présent, on va écouter un poème qui s'appelle « Trois voix » de Tamura Ryushi.
Mitsu no koe. Sono koe wa tōi tokoro kara kita. Sono koe wa hijou ni tōi tokoro kara kita. Arayuru sasayaki yori mo hikuku. Arayuru 共感よりも高く、歴史の推進よりさらに深い、1830メートルのエムデン海淵よりさらに深い、言葉の中の海、詩人だけが発見する失われた海を貫通して、世界の最も寒冷な空気を引き裂き、世界の最もデリケートな艦隊を海底に沈め、我々の王と我々の感情の都市を支配する。我々の死せる水夫と我々の艦隊を再創造する。その声は遠いところから来た。その声は非常に遠いところから来た。をなぜなら我々は罪を犯すことができないから。我々は恐怖の統計だ。恐怖の統計。我々は肉欲の宣言だ。肉欲の宣言。我々は罪を犯すことができない。をなぜなら我々は個人ではない。我々は群れであり集団だ。我々は集団そのものだ。その声は涙を通ってきた。その声は一滴の涙を通ってきた。あらゆる貧しきものよりも貧しく、あらゆる愛しきものよりも愛おしく、白熱せる心よりさらに激しい。2000年前に一人で死んだ男の痛ましさよりはるかに激しい。 言葉の中の愛。詩人だけが発見する失われた愛を貫通して、世界の最も沸騰する暴風にきらめき、世界の最も乾燥した咽頭に流れ込み、我々のエネルギーと我々の皮膚に侵入する。我々の信仰と我々のキスを破壊する。その声は涙を通ってきた。その声は一滴の涙を通ってきた。おう、なぜなら我々は愛によって破滅することができないから。我々は情熱の発明だ。情熱の発明。我々は危機の情報だ。危機の情報。我々は愛によって破滅することができない。おう、なぜなら我々は孤独でない。我々は群れであり集団だ。我々は集団そのものだ。その声は時を超えてきた。その声はたった一つの時を超えてきた。あらゆる過去よりも暗黒の未来を持ち、あらゆる未来よりも輝ける過去を持ち、神の慈悲よりさらに鋭い。東京中央標準時午後8時、2月の、守護線を通過する、御車の光よりはるかに鋭い。言葉の中の時。詩人だけが発見する失われた時を貫通して、世界の最も青ざめた頬に接吻し、世界の最も荒廃した地平線に夕日を落とし、我々の死体と我々の寂しい駐車場を両奪する。我々の科学と我々の血を偽証する。その声は時を超えてきた。その声はたった一つの時を超えてきた。おう、なぜなら我々は死ぬことができないから。我々は不死の広告だ。不死の広告。我々は消耗の政策だ。消耗の政策。我々は死ぬことができない。おう、なぜなら我々は個人ではない。我々は群れであり集団だ。我々は集団そのものだ。その声を聞いて、ついに私は母を産むであろう。その声を聞いて、我々の死体はハゲタカを襲うであろう。その声を聞いて、母は死を産むであろう。
Alors, suite à cette lecture, on a pu entendre ce poème Trois voix de Tamura Liyoshi. Tamura est un poète japonais, était un poète japonais. Ce poème date de 1956 de son recueil Le monde sans les mots, où il confronte sa poésie à un cri expressionniste muet. Ça, je l'ai lu à la fin par la traductrice. C'est comme ça qu'elle a représenté sa traduction. Notamment parce que c'est très bien ce qu'elle écrit. Et c'est tout ce que sa poésie, de mon point de vue, va me permettre de vous livrer. Bon, parce que c'est de la poésie. C'est un poète qui est admirable. Tamura Liyoshi. Comme vous l'avez sûrement très bien compris, il parle de cette voix qui vient d'un endroit lointain, à travers les larmes et par-delà le temps. Parce que nous ne pouvons pas mourir. Nous ne sommes pas des individus. Nous sommes des foules, des masses. Des masses, voilà ce que nous sommes. Il lui répète cette phrase à trois reprises pour les trois voix dans sa poésie. Et oui, les personnalités de chacun fondent restent la série d'individus. Celle d'une masse. Ça, c'est moi qui le rajoute, c'est une interprétation. Oui, les personnalités de chacun fondent et restent la série d'individus que la société crée. celle d'une masse. Et là, je reprends, je vais vous lire la traduction de son dernier, sa dernière strophe. À l'écoute de cette voix, j'enfanterai finalement une mère. À l'écoute de cette voix, nos cadavres assailliront les vautours. À l'écoute de cette voix, la mère enfantera la mort. Donc, comme vous avez pu comprendre, c'était un poète assez désespéré. Enfin, le comprendre parce que j'ai pu vous dire en français. J'ai pas envie de vous le lire en français. Parce que je vous invite, en revanche, si vous êtes intéressé, à le lire. Parce que sinon, ceux qui... Je pense que c'est une façon pour éveiller ceux qui ont quelque chose, une sensibilité à chercher. C'est pas de vous le lire, mais c'est ceux qui sont sensibles à ça vont essayer de trouver ce poème qui est édité aux éditions La Barque, mais entre autres, je pense qu'il y a plusieurs éditions possibles. Voilà. I can tell by the mark he left you were in his dream. I'm a child of countless trees. I'm a child of boundless seas. What you are, what you're meant to be, speaks his name, though you were born to me. Born to me, Cassidy. Lost now on the country miles in his Cadillac. I can tell by the way you smile, he's rolling back. Come wash the nighttime clean. Come grow the scorched ground green. Blow the horn, tap the tambourine. Close the gap of the dark years in between. You and me, Cassidy. Quick beats in an icy heart. A catch cold draws a coffin cart. There he goes, and now here she starts to hear a cry. Flatter the seabird, scattered like lost birds. Wheel to the storm and fly. Let your life proceed by its own design. Nothing to tell now. Let the words be yours, I'm done with mine. Fare thee well. Let your life proceed by its own design. Nothing to tell now. Let the words be yours, I'm done with mine. Done with mine.
last words. Wheel to the storm and fly.
Donc on a pu écouter un extrait de la poetry, une poésie de Stockholm, je crois que c'est des années 80. On parlait donc juste avant du monde de la sensibilité, en reconnaissant le caractère naturel et inévitable de l'illusion, en reconnaissant le caractère naturel et inévitable de l'illusion, Kant disculpe la sensibilité, pour chercher à comprendre comment la raison en vient à engendrer des raisonnements aberrants. Il se dit maintenant, je vais essayer de comprendre directement, en disculpant la sensibilité, que ce n'est pas la faute du côté invisible, mais sans ça, il va essayer de comprendre comment ça marche. Et en fait, il s'avère que ce n'est pas possible. Alors Kant lui-même a tissé des liens entre la philosophie et la métaphysique. Si vous vous rappelez, Bob et John, c'était leur quête. Voir la barge russe, 445, 445. Eh bien, c'est la mienne aussi, à présent. Bob et John, Bob c'était mon pote, John c'est moi, mais on m'appelle Johnny maintenant. Donc Kant lui-même a tissé des liens entre la philosophie et la métaphysique. L'illusion transcendantale consiste en ce que nous attribuons fautivement une valeur objective à des concepts. Formellement, nous suivons un raisonnement parfaitement logique. En lui conférant une valeur de connaissance, nous transférons à tort les structures subjectives de notre pensée sur l'objectivité du monde. Donc, c'est-à-dire que malgré Bon, il y a l'illusion transcendantale, l'illusion tout court, l'illusion qui est en nous, consiste en ce que nous attribuons fautivement une valeur objective à des concepts. Cette valeur transcendantale qui est en nous, eh bien, fautivement, on l'attribue à des valeurs objectives. Formellement, nous suivons un raisonnement parfaitement logique, formellement, logique, en lui conférant une valeur de connaissance, nous transférons à tort les structures subjectives de notre pensée sur l'objectivité du monde. On ne peut pas, ce qu'on pense intérieurement ne va pas forcément bénéficier à la réalité avec un grand R. C'est en nous et ça n'a peut-être pas contribué à la réalité avec un grand R, dans cette machine à laver dans laquelle on tourne, qui tourne par le trois cons, qui est le conditionnement, la consommation et le contrôle. Et donc ça, c'est l'illusion transcendantale. On pense qu'on va pouvoir faire que ce qu'on pense, tout le monde le pense, mais c'est faux. Ça peut être partagé, bien sûr. Donc la subtilité de ce travail de Kant est d'insister sur le paradoxe d'une illusion de la raison, soit de la présence des phénomènes métaphysiques dans la philosophie de la réalité avec un grand R. Donc là, ce que je vous disais juste avant, lui-même a tissé des liens entre la philosophie et la métaphysique, et bien, par cette conclusion, et son travail, parce que bon, il a fait un travail énorme, je me suis penché juste sur un petit passage, un passage de bois du livre Kant, de Denis Thouard, aux éditions Les Belles Lettres, Figure du Savoir, et c'est une série, ça, ils sont tous excellents, quoi. Les bouquins, j'avais fait un truc sur Lyotard, et l'autre, c'est Himself, excellent, Himself. À suivre. Concernant ce lien entre la métaphysique et la philosophie, Kant l'aborde dans les limites de l'autonomie, par les limites de l'autonomie, qu'il est difficile d'établir toujours le lien entre l'homme sensible et phénoménal et l'homme nouménal, libre et autonome. Si la loi et l'impératif moral sont prioritaires, il faut toutefois le paradoxe du respect comme sentiment, le sensible, de la raison, pure pratique, pour en permettre l'application. Il y a ainsi au cœur de l'acte qui scelle l'autonomie de l'homme libre comme une faille qui exige un abaissement premier de la sensibilité. Il faut bien que je sois sensible à la loi pour me dégager, grâce à elle, de toute sensibilité, de tout intérêt particulier, de tout amour propre. L'autonomie passe non seulement par le renoncement de la volonté propre, mais aussi par l'affection du sujet par la représentation de la loi qu'il se donne. Il subit ainsi l'effet violent de sa propre représentation. La loi est énoncée par lui, mais son contenu le remet en question. Le commandement qui réalise la liberté énoncée dans la loi s'empare de lui comme s'il venait d'ailleurs. Le mouvement qui me libère, c'est-à-dire le mouvement même de mon autonomisation, se produit à travers l'expérience d'une passivité. Comme on l'a vu avant, Kant disculpe la sensibilité pour chercher à comprendre comment la raison en vient à engendrer des raisonnements aberrants. Eh bien, il y arrive par l'autonomie, par son désir de comprendre son autonomie, par le renoncement de sa volonté propre, et aussi par l'affection du sujet, par la représentation de la loi qu'il se donne. Il subit ainsi l'effet violent de sa propre représentation. Par la loi, si on veut suivre une loi, on est obligé, à un moment ou un autre, selon les différents points, d'arrêter de s'écouter pour suivre la loi. Et cette loi, ça rentre dans la logique dont on parlait tout à l'heure. C'est logique, puisque t'as pas le droit. Tu vois ? C'est ça. plusieurs points se rapprochent entre la philosophie de Kant et la poésie de Tamura, notamment là où la verticalité intervient. Dans Le Monde sans mots, de 1961 de Tamura, « Je suis un homme vertical. Je découvre le monde sans les mots, par l'usage des mots. Je suis un homme vertical. Je ne saurais me limiter à être un homme horizontal. » Ça paraît tout au début du poème. Et pendant que lui, Kant, par rapport à la verticalité, je vais vous lire un extrait du livre de Denis Thouard qui s'appelle Kant aux éditions Belles Lettres. Je le répète, ces éditions sont fantastiques. Alors, le rapport à autrui. Si la loi est ce qui introduit chacun dans l'ordre moral, lui faisant prendre conscience de sa liberté comme autonomie, c'est d'abord par son intermédiaire que je reconnais autrui comme personne. Autrement dit, je respecte en lui la loi. C'est à partir de la loi, en tant que sujet de loi, que je reconnais comme une liberté. Que je le reconnais comme une liberté autre. C'est par la loi que je reconnais autrui. Le respect mutuel qu'ont les personnes les unes pour les autres provient de leur commune soumission à la loi. Il s'agit d'un rapport à la fois immanent et vertical à l'université de la loi, l'universalité, pardon, de la loi. Ce rapport est immanent puisqu'il ne fait que m'asseoir dans la conscience de mon autonomie. En un sens, je ne fais rien d'autre que me rapporter à moi. La loi est mienne, ce qui dit l'autonomie. Je peux donc y obéir sans aliénation. Il est cependant vertical, au sens où il désigne comme un ordre supérieur de réalité, puisque la loi morale surgit en l'homme comme étant plus grande que l'homme. Le caractère absolu de l'obligation me transcende et m'institue comme être moral. D'où la verticalité qui se comprend sous son aspect de transcendance chez le poète qui meurt dans les mots et chez le philosophe qui affiche la métaphysique en la plantant dans la réalité avec un grand R et où les résistants ils font germer les équilibres et les rythmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas moraux, nous n'avons pas de moralité, je veux dire. Eh bien, ça veut dire que non. Ça veut dire que nous n'avons plus d'identité. Et là-dessus, l'État, avec un E majuscule, ne peut asseoir sa moralité, une moralité, sur des personnes qui sont devenues individus, sans identité, car il n'y a aucune moralité. Mais encore une fois, par le fait qu'on n'ait plus de moralité, on n'a plus d'identité, donc résister. Comment on peut résister pour une identité qu'on a perdu.
Qui nous ont pris, tu veux dire?
Enfin, oui, dans le fond, c'est forcément possible. Mais vu que ça dépasse tout, pourquoi... Enfin, on n'a aucun repère, aucune référence pour récupérer nos identités. On ne se bat pas du tout sur le bon plan. C'est ça l'erreur. C'est qu'on n'est pas du tout sur le bon plan. Il faut aller du côté invisible. Il est marrant. Et t'es marrant. Helmut, t'es vachement marrant. Ah ouais, ouais. Donc, l'État, avec un grand E, est à la fois victime, coupable et bourreau, par le fait, vu que les victimes qu'elle fait, nous, les personnes sans moralité, elle les fait. Ensuite, elle est coupable pour ça. Elle est aussi victime de l'avoir fait. Pas sûrement par nous tous, et elle est bourreau parce qu'elle nous pour de nombreux entre nous, elle nous fait clamer notre mécontentement.
La barge russe. Quotidiennement.
avec Johnny Chief Beck. Sur JTFM.